Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. Si vous nous rejoignez, nous sommes le mercredi 17 mai 2023. Il fait beau dans le Beaujolais, il y a un peu de vent, peu de nuages et des températures autour de 17 degrés. C'est une agréable journée. Dans notre émission, on va avoir un programme que je vous souhaite tout aussi agréable. On va prendre soin de nous avec Charline Simian, notre diététicienne nutritionniste. Et on va s'instruire en compagnie du prof Patrick pour une rubrique socio-économique. Et avant ça, eh bien, on va passer un moment en compagnie de musiciens. On va parler du groupe Brahma aujourd'hui, un trio rock psychédélique qui plonge son auditoire dans une transe survoltée. Alors pour faire du bon rock, les White Stripes nous ont appris qu'une batterie et une guitare suffisaient. On peut y ajouter un ou deux instruments supplémentaires tels que la basse, un clavier, un orgue, pourquoi pas. Une vielle à roue, c'est plus original, c'est le cas ici avec Brahma. On va parler un peu de cet instrument que je connaissais pas bien et on va parler de leur musique en général qui puise dans des racines traditionnelles occitane, si je ne m'abuse, et puis on va parler surtout de leur passage en concert au quartier Métisseur ce vendredi 19 mai à la Mure sur Azergue avec le groupe Dordogne. Avant de parler de leur musique avec Simon Guy, le guitariste qui est avec nous en studio, on les écoute avec le titre Ma Zoya, morceau qu'on retrouve au début de leur EP Laglan et qui a un super clip que je vous invite à aller voir sur YouTube. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14, merci d'être avec nous. Bam, c'était Brahma sur Calade avec le titre Mazoya.
Ensemble sur Calade.
Et on a un membre du groupe Brahma avec nous, c'est Simon Guy, bonjour.
Bonjour.
Guitariste au sein du groupe. Brahma, si on peut résumer, c'est un trio. Le groupe, ça a commencé comment ?
Alors, ouais, c'est un trio de hypno-rock ou rock psychédélique, quoi, c'est ce qu'on aime bien dire. Ça a commencé il y a 4 ans. Du coup, c'est juste, en fait, personnellement, pour parler, puisque c'est moi qui suis là. Moi, je faisais plutôt du rock psyché quand j'étais ado et plutôt des trucs anglo-saxons. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, ça me. C'est un peu étrange de chanter des chansons vraiment. Anglaise, tu vois, d'un truc qui est hyper loin de chez toi et qui raconte pas du tout ton quotidien. Et moi, j'avais vraiment dans la tête fort de me dire, ouais, faut que j'arrive à trouver un lien, parce que là, même ça, j'étais complètement paumé dans mon truc, quoi. Mmh. Et donc, du coup, je cherchais quelque chose de bosser un peu plus en lien avec mon quotidien, chanter en français, je savais pas trop, mais en même temps, j'aimais pas trop. Et j'ai rencontré Baptiste qui jouait de la vie à la roue. Et là, en fait, tout de suite, on s'est dit, ah, ok, faut jouer ensemble. Enfin, moi, ça collait complètement avec ce que j'avais dans la tête. Parce que lui, il jouait de la vie à la roue, mais du coup, en passant par un pédalier d'effet de guitare, en fait, avec des sons qu'on utilise sur une guitare.
Alors, la vie à la roue, puisqu'on en parle, est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est ? Parce que moi, je connaissais pas bien du tout. Je l'avais déjà vu quelque part, mais je connaissais pas l'instrument.
Eh ben, disons que dans la tête des gens, c'est un instrument qui est assez local et les gens disent Moyen-Âge, mais en fait, ça date à peu près pareil que la guitare. La guitare, c'est le 10e siècle, je crois, la vie à la roue, c'est le 9e. Et en gros, c'est un instrument à archer, mais au lieu d'avoir un archer comme sur un violon, en fait, c'est une roue. Une roue qui tourne et qui frotte en boucle plusieurs cordes. Donc du coup, on a à la fois des cordes qu'on vient où on peut jouer dessus avec un clavier. Donc du coup, là, on fait des notes, enfin voilà, comme sur un violon ou sur un piano, voilà. Mais en plus de ça, il y a des cordes qui sont frottées en continu, ouais. Et sur lesquelles on peut agir. Enfin, bon, on va dire qu'on peut pas agir, pour faire simple. Et donc du coup, ça fait un bourdon, ça fait une note, un drone
comme la
permanent.
Cornemuse,
ou comme les cornemuses, ou comme il y a pas mal d'instruments dans le monde. Il y a beaucoup d'instruments avec des bourdons, en fait. Musique modale, quoi, on dit.
D'accord. Et est-ce que c'est compliqué à associer avec des instruments qu'on a plus l'habitude d'entendre, comme la guitare et la batterie ?
Du coup, comme je disais, Bat, il faisait ça. Il jouait déjà un petit peu de manière électrique, en fait, dans une musique plus trad, parce que lui, comme il fait de la vielle, il a grandi un peu dans la musique trad. Et après, il l'a quitté parce que c'était pas son style. Enfin, il écoutait plus de la noise, en fait. Mmh. Et donc, du coup, lui, il était déjà là-dedans. Mais après, ouais, on a quand même pas mal bossé. Parce que du coup, on a bossé tous les deux. Donc, on a cherché un son vraiment guitare-vielle. Et ensuite, on a eu envie d'aller plus vers le rock. On faisait des trucs plus expé au début. Et là, batterie, quoi. Et on cherchait un batteur qui chante. On voulait vraiment qu'il y ait du chant, beaucoup. Et donc, du coup, on a rencontré Paolo. Ouais. Et là, ouais, en fait, le plus gros du boulot, je pense, pendant un an, ça a été, on a écrit des morceaux qu'on a mis à la poubelle, enfin, fait que des allers-retours, parce qu'en fait, c'était vraiment à trouver un son, parce que la vie à la roue, du coup, vu que c'est un instrument à son continu, ça prend énormément de place.
D'accord.
Et donc, pour faire ressortir des voix, pour faire ressortir de la guitare, par exemple, c'est assez, c'est assez difficile. Il a fallu trouver un truc, quoi. Il a fallu trouver une recette pour que on m'entende, en fait, parce que moi, on m'entendait pas.
La guitare, elle se dégageait pas de...
Ah ben non, si je fais des accords, par exemple, avec des cordes un petit peu molles et un médiator tranquille, comme beaucoup de guitaristes, j'existe pas, quoi. Donc, il fallait trouver un moyen que la guitare, elle soit tout le temps tranchante.
Ouais.
Donc du coup, moi, je suis très mélodique, par exemple, je fais très peu d'accords, quasiment jamais, en fait, je fais jamais d'accords, très mélodique. Voilà.
Donc il y a eu des contraintes dans la création, simplement par la formation du groupe, enfin la structure du groupe, ça crée des...
Ouais.
Des contraintes de recherche.
Bah, disons que c'est tout le temps ça, en fait, dans la musique. C'est tout le temps ça. Il y a la musique de quatuor à cordes, il y a de la musique de guitare, basse, batterie, voilà. Il y a la musique de trio de jazz, piano, contrebasse, machin. Ça sonne déjà comme ça, c'est une recette. Disons que là, guitare, via la roue, batterie, il n'y a pas de recette.
Oui, il fallait
c'est ça le truc. Il faut la faire, la recette. Voilà.
D'accord. Et vous avez dit que pendant un an, vous avez écrit des chansons. Qu'est-ce qui faisait que... Et que vous en avez jeté beaucoup. Qu'est-ce qui faisait que vous en gardiez certaines? C'était quoi qui vous disait, là c'est bon, on tient quelque chose qui nous plaît? Vous cherchiez quoi?
Alors ça, chacun a son truc. Mais moi, je dirais que quand même, tu le sens. Quand tu joues un morceau et que tu as cette espèce d'excitation adolescente, un peu genre au début, tu es là, ah, c'est trop bien, super, j'ai un nouveau morceau, et que tu es un peu excité, c'est que c'est cool.
Ouais.
Et si tu l'as pas et que tu écoutes, tu dis, ah, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. C'est qu'il faut le virer. Et en général, tu mets vachement de temps à t'en rendre compte. Et plus les morceaux sont chouettes, plus tu l'as super vite ce truc et il monte tout de suite. Ben là, Mazoï, qu'on vient d'écouter, c'était vraiment un morceau où on a un peu pigé notre son avec ça, quoi. C'était il y a assez longtemps et en fait, il est assez simple dans l'écriture, c'est très répétitif. Et en fait, on a pigé un truc dans le son avec ce morceau, on l'a fait et tout de suite, on a dit OK. Là, il y a un truc, quoi. Et après, on a calqué pas mal de morceaux avec cette espèce d'idée. Parce que ça marchait vraiment, quoi, instantanément. Il y avait un truc. Puis des fois, il y a des morceaux, on est resté 8 mois dessus, à changer tout le temps des détails, des trucs. Puis à la fin, on dit, ouais, poubelle.
Aïe.
C'est un peu dur, mais bon. Ouais.
Je trouve que les compositions sont complexes, mais après, c'est le rock psychédélique, c'est ce style musical où il y a des mélodies très, très complexes et des rythmiques aussi complexes. C'est plus difficile à composer que, je sais pas, des choses un peu plus pop, 4-4, très simples.
Bah là, c'est pareil, c'est mon avis perso, mais moi, je trouve que c'est plus dur, franchement, d'écrire une chanson en mode tube, qui ouais. est genre... qui reste vraiment dans la tête, enfin vraiment avec une mélodie hyper simple, très pop. C'est parfois je trouve ça plus difficile qu'en fait de quand tu es un peu technicien, que tu connais la musique, écrire un truc compliqué, bah, tu regardes les accords, nanana, tu fais ah, c'est un peu chiadé. Vas-y, si on met une mesure en 7 temps, puis après on met ça. En fait, finalement, c'est je trouve ça plus difficile d'enlever.
Ouais.
C'est du coup nous on essaie d'avoir un peu un entre-deux. Mmh. On essaie d'avoir des morceaux qui sont pas trop longs ou quand ils sont longs ils sont répétitifs. Parce que c'est dance pour les concerts, mais on a un petit peu ce truc de se dire on aime bien la musique un peu déglingue quoi, quand ça change, paf, il y a des changements, mais on essaie quand même toujours de construire un truc très très carré quand même où ça reste quand même un morceau. Ouais. Ça voilà, on essaie de faire ça. Il y a pas couplet refrain, mais il y a quand même un pont, un truc, puis on revient sur quelque chose quoi.
Et c'est complexe et c'est tiré. Il y a un côté traditionnel dans la musique. Alors. Moi, si on me le disait pas, pour moi, c'est du rock psychédélique et c'est dansant et c'est très moderne. Et le traditionnel, pour moi, c'est ancien. Je vois pas le côté ancien dans cette musique, alors je sais pas...
Alors traditionnel, ça veut pas dire ancien.
Oui, mais...
Traditionnel, ça veut dire... C'est une musique qui se transmet oralement, on peut dire, ouais. plutôt. Et après, quand les gens disent ancien, c'est le folklore, c'est le truc qui est un petit peu plus musé. Mais finalement, aujourd'hui, si on regarde, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui dans les musiques traditionnelles, les musiques traditionnelles sont plus si traditionnelles que ça. Tu prends par exemple le rock et le jazz. Mm. Aujourd'hui, c'est surtout le rock. Le rock aujourd'hui, c'est une musique folklorique.
Ouais.
Enfin, je veux dire, les gens, ils jouent les mêmes morceaux, ils ont les mêmes inspirations, ils jouent toujours avec la même instrumentation, ils ont leur costume. Finalement,
ouais.
ils ont leur manière de parler. Il y a vraiment un truc extrêmement codifié. Donc du coup, c'est quasiment, c'est du folklore. Donc du coup, ancien, je sais pas. Mais les musiques trad aujourd'hui, en plus, il y a vachement de mouvements et tout ça. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui font revivre ce truc et tout.
Qui modernisent.
Ouais. Bah non, du coup, parce que c'est pas une musique ancienne, mais.
Oui.
mais du coup, ouais, ils le font vivre. Et je dirais que c'est une esthétique. En tout cas, il y a un truc d'un répertoire choisi. Surtout quelque chose qui est assez dans la musique trad. Il y a un rapport au local. Et à la diversité vraiment qui est importante, c'est-à-dire ça part un peu d'une idée altermondialiste, le revivalisme trad d'aujourd'hui là, c'est l'idée que plus on localise les musiques, plus tout le monde fait un truc un peu proche de chez soi, plus il y a des zik différentes en fait, parce que du coup, si tout le monde a chaque endroit a sa particularité, tu vas ailleurs et il y a une particularité. Non, ouais. Alors que tu prends genre la pop d'aujourd'hui, c'est
qu'on soit dans un pays ou
là. Ah ouais, c'est la même chose de toute façon. Donc du coup, il y a un petit peu cette recherche là. Alors après, nous, on vient pas de ça. On n'est pas un groupe qui est issu du trad et qui fait du rock, par exemple. C'est plutôt l'inverse. C'est que Paolo et moi, on vient vraiment du rock et on a mis le nez là-dedans. On s'est dit, waouh, putain, c'est intéressant.
Voilà,
c'est plutôt ça l'idée.
Et outre la composition, et mais sûrement que ça en fait partie pour vous, il y a la recherche des sonorités. Je trouve que le traitement de justement le son de la guitare, le son de la viola à roue, ça fait partie du travail de composition aussi d'aller. Les faire sonner d'une certaine manière.
Ouais, mais 50-50 quoi. Des fois, on peut bosser le même morceau, on change rien, on cherche juste les sons, quoi. Avec notre ingé son, par exemple, on fait beaucoup de trucs comme ça. Mmh. Vraiment chercher à faire sonner la guitare de telle manière, la vielle de telle manière. Parce que voilà, c'est là où on peut trouver un truc peut-être plus ou moins trad, entre guillemets. Mais c'est qu'on a ces contraintes-là de musique avec un bourdon. C'est-à-dire que Baptiste, si on veut qu'il y ait un très gros son de vielle à roue, il va activer ses bourdons. Et du coup, ben, on est diatonique, enfin on est sur, on joue avec une seule note, on a toujours un ré qui va être là dans tout le morceau, quoi. Donc on doit faire avec ces choses là et puis le chant aussi, du coup on chante en occitan, du coup
on l'a pas dit encore,
mais donc du coup on a aussi la contrainte plutôt chouette de la langue, en fait. C'est-à-dire que ça sonne pas comme de l'anglais, ça sonne pas comme du français. Mmh. Et on est plutôt gagnant, parce qu'en fait, rythmiquement, c'est vraiment mieux que le français, quoi. Il y a truc beaucoup plus... Enfin, moi, je trouve beaucoup plus fluide, vraiment plus facile à faire groover, quoi. Enfin, faire groover la langue, mais... truc plus... Je sais pas comment dire, mais ça vraiment à faire sonner.
À faire sonner, ouais.
Pour, surtout, en particulier dans les morceaux, on va chanter un peu vite, dansant, ça marche vraiment bien.
Et comment est-ce qu'on écrit en occitan ? Faut le parler ? Vous le parlez au sein du groupe, l'occitan ?
Non. Non, on le parle pas. Je pense qu'à force de bosser, maintenant, moi, j'arrive à le lire assez correctement. Mais je pourrais pas le parler.
D'accord.
Non, on n'a pas. On s'est intéressé à ça et du coup, on bosse avec une linguiste chez nous qui s'appelle Dominique Descombes, avec qui on coécrit les paroles, du coup, puisqu'elle fait les parties prenantes. Et puis on chante même depuis récemment, là, il n'y en a pas sur l'EP, je crois. Non, il n'y en a pas. Mais maintenant, on chante aussi des paroles de ses poèmes, quoi.
D'accord. Et ça raconte quoi ?
Eh ben, ça dépend. Mais en général, on s'est pas mal intéressé à la poésie occitane, du coup. Et donc, en fait, on a gardé un petit peu les mêmes principes. On s'est un peu infusé de ça. Et en gros, souvent, on parle un peu de sujets un peu métaphysiques, mais en prenant toujours cette idée du quotidien, en prenant toujours des éléments du quotidien. Par exemple, Mazoï, puisqu'on vient de l'écouter, ça parle de en gros, le temps qui s'est écrit un peu comme un haïku. C'est vraiment une phrase assez courte qu'on répète. Et en gros, c'est le principe de on est dans un lieu et on parle des murs, donc du coup de ce lieu qui était là avant qu'on arrive et qui seront là après, et nous on est juste de passage là-dedans, et puis il y aura d'autres gens après, il y avait d'autres gens avant, mais les murs ils sont toujours là, et donc ils évoluent de manière beaucoup plus lente, quoi, que soi. Et donc voilà, c'est un truc qu'on a écrit comme ça, et en gros voilà, c'est des trucs un petit peu métaphysiques si on aime bien, fumeux si on n'aime pas, et du coup mais avec vraiment des éléments à chaque fois de un petit peu du quotidien. Et je peux présenter la suivante, peut-être.
Et on va écouter Saber Voleur, justement, après avoir discuté. Ouais, ça parle de quoi ?
C'est une chanson trad, du coup, et chanson d'amour. Et on avait constaté que dans les musiques trad, les chansons d'amour, elles finissent toujours mal.
Ah ouais ?
Ouais, du coup, on a enlevé les fins. Et donc, du coup, chaque couplet est un début de chanson d'amour. Il y a plusieurs chansons d'amour dedans, et il n'y a que le début. Comme ça, à la fin, on l'imagine, quoi, parce que ça finit toujours super mal, de toute façon. Donc.
Ok. Y a un côté très énergique dans la musique, et il y a un côté trance aussi, en même temps. C'est à la fois énervant, dans le sens où ça secoue,
nerveux, et
planant en même temps. C'est un équilibre qui est difficile à trouver. En concert, on est plus de quel côté ? Est-ce que la balance penche un peu plus ?
C'est assez nerveux en début de set. Et petit à petit, on part vers des trucs plus, effectivement, plus trans. Ouais.
D'accord.
En général, on est plutôt entre les deux, parce que c'est un peu nos personnalités. Paolo, il est assez planant. Et Baptiste et moi, on est plus nerveux. Ouais.
D'accord. on pourra vous écouter donc en concert ce vendredi 19 mai. Ça va se passer au quartier Métisseur à La Mure sur Azergues. Vous jouez juste après un autre groupe traditionnel rock, Dordogne. Et voilà, je ne sais pas si on a d'autres infos à dire. Il y a une buvette et de la restauration sur place. Et de quoi passer un bon moment. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre musique.
Merci.
On reste encore un peu avec vous, avec justement Saber Voleur de Brahma. Merci encore, à très bientôt.
que vous n'allez pas manger des choux par-ci après des tripes.
Ensemble sur Calade.
C'est pas bien bon ça.
Alimentation, santé.
Et oui, on parle tout de suite d'alimentation et de santé. Pour cela, on retrouve notre nutritionniste Charline Simian. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous vouliez commencer une nouvelle série et nous parler plutôt de digestion, c'est ça ?
Tout à fait. On va voir un petit peu la physiologie de la digestion et l'importance de chaque étape de la digestion et ce qui s'y passe un petit peu. Je vous propose de commencer le voyage par le début, hein, par la bouche et par l'étape de la digestion qui se passe dans la bouche, qui est la mastication. Ouais. On en parle beaucoup. Et en réalité, si on ne voit pas bien l'intérêt, je ne vois pas pourquoi on le ferait, surtout quand on n'a pas bien de temps, c'est quand même vachement plus rapide d'avaler tout rond.
Oui, mais ils proposent même, j'ai vu des trucs liquides exprès pour justement ne pas perdre de temps à mâcher.
Oui, et pour perdre plein de poids très rapidement, effectivement, oui, il y a vraiment cette notion que, au-delà du fait que ça vous fait perdre du poids, ça permet de ne pas mâcher et d'être beaucoup plus rapide et de prendre ça entre deux rendez-vous dans la voiture. Parfait. Certes, ça évite les miettes. Hein. Ouais. En revanche, en termes de rassasiement, on repassera, parce que dans la bouche, alors je vais vous faire un petit peu de physiologie, mais il y a quelques outils, notamment des dents qui ont des formes différentes et qui ont donc des fonctions différentes.
Ouais.
De déchiquetage, de déchirement et de mastication pour celles qui sont plutôt au fond. Donc il y a vraiment cette importance-là de l'outil qu'on a. Et puis on a un certain nombre de choses, notamment des glandes salivaires qui vont donc sécréter un suc qui s'appelle la salive. Et dans cette salive, en fait, il y a déjà un certain nombre de choses qui permettent de commencer la digestion, notamment des sucres. C'est ce qui explique que si vous gardez assez longtemps du pain dans votre bouche, il va avoir le goût sucré, parce qu'en fait, les enzymes qui sont dans la salive commencent à couper les gros bouts d'amidon, qui sont les gros morceaux de sucre, en morceaux de sucre plus petits qui vont commencer à pouvoir être digérés. Ça s'appelle des amylases, celles qui coupent l'amidon.
D'accord.
Donc on a cet intérêt-là. En plus, la salive permet une certaine palatabilité. Ça veut dire que on va commencer à ramollir un petit peu le bol alimentaire pour qu'il soit digéré. N'oubliez pas que le seul endroit où on va pouvoir écrabouiller les trucs, c'est quand même dans la bouche.
Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a avalé, ça va plus.
Une fois qu'on a avalé, à moins d'avoir avalé ses propres dents, si vous voulez, c'est plus compliqué de mâcher, vous voyez. C'est vraiment, vraiment. Alors, ne rigolons pas trop, il y en a qui y arrivent, hein, mais c'est pas très indiqué. Donc, véritablement, le temps buccal dans la nutrition et dans l'alimentation a vraiment une importance essentielle sur le goût, sur le plaisir, parce que finalement, le côté plaisant de l'alimentation au niveau du goût, tout ce qui est organe du goût va se situer dans la bouche et pas en dessous. C'est-à-dire qu'une fois le plaisir buccal passé, il n'y a plus vraiment de plaisir à proprement parler dans l'alimentation. Donc il va y avoir tout ce qui est développement du goût.
Pardon, il y a la musique qui est partie. Se sentir bien repu peut-être
Alors ça permet effectivement ce temps de mastication, se laisser le temps de mâcher, permet aussi de se dire est-ce que j'ai assez mangé ou est-ce que j'ai pas assez mangé. Ça permet à l'organisme d'avoir assez de temps pour savoir et pour envoyer les bonnes informations, vous avez raison Mathieu, pour savoir si j'ai encore faim ou si j'ai plus faim, ou même si j'ai encore faim mais plus pour ce plat-là, qui s'appelle le rassasiement. Donc effectivement, le temps de digestion buccale est quand même un des plus importants. J'allais dire ensuite, ça se fait presque de manière automatique, mais on peut effectivement simplifier le travail de l'étage en dessous en apportant de la mastication et en apportant vraiment, logiquement on devrait avaler une bouillie en fait. Donc l'idée de manger déjà liquide pourrait paraître intéressante dans la texture qu'il faudrait avaler, voilà.
D'accord.
Et
du coup, on perd quoi en mangeant pas liquide ? C'est déjà du plaisir
On perd du plaisir, bien sûr. On perd aussi la sensation de rassasiement, justement, c'est-à-dire que ça va arriver tout liquide. Mmh. Et le rassasiement prolongé qu'on va trouver avec ce qu'on a mâché, qui est encore quand même avec des morceaux et qui va nécessiter un temps d'estomac plus long, bah là du coup le liquide ça s'écoule très rapidement. C'est assez facile à comprendre, le liquide va s'écouler beaucoup plus rapidement, il va tenir moins longtemps dans l'estomac que des choses qui vont être un petit peu plus solides. En revanche, effectivement, le défaut de mastication entraîne un surcroît de travail sur les étages en dessous, et donc ce surcroît de travail, bah, il va falloir le combler dans une petite sieste juste à la fin du repas, là, vous voyez de quoi je veux dire.
Ouais, je connais.
Peut-être, ne mâchez-vous peut-être pas. Voilà. Alors, pour améliorer cette mastication, on peut déjà manger ailleurs que devant un écran. Ça, c'est quelque chose qui joue en notre défaveur sur la mastication. Avec plus d'attention. Et puis, amener des produits, tout simplement, qui se mâchent mieux. Si je dois manger de la semoule ou des yaourts, je vais pas trop les mâcher. Si je dois manger un bout de pain avec un bout de fromage, ça demande plus de mastication. Mmh. Donc, associer des choses qui se mâchent à des choses qui se mâchent moins dans un repas, mais essayer de veiller à toujours avoir des choses qui vont, malgré tout, se mâcher.
Très bien. Bon, bah, des conseils importants à suivre. C'est quand même devoir rappeler aux gens qu'il faut mâcher, ça me paraît revenir vraiment aux bases.
Mais je passe des journées entières à rappeler à mes patients que ça reste quand même important, au-delà de l'équilibre pur et dur nutritionnel, de se donner le temps de manger. Ouais. Alors vous n'avez pas de problématiques alimentaires, enfin ça fait assez longtemps qu'on se côtoie pour que j'ai une idée, mais du coup les gens qui ont un problème avec leur alimentation ont parfois envie de s'en débarrasser rapidement, donc plus le repas est court, mieux c'est pour eux.
Ah oui, je vois. On se lance là aujourd'hui dans une série sur toute la digestion. Est-ce qu'on pourra faire un préquel un jour sur ce qui se passe avant même que les aliments rentrent dans la bouche, sur l'importance du visuel, que ça sente bon, que ça soit pas tout gluant?
Eh bien, petit préquel pour la prochaine fois, rendez-vous est pris.
Allez, super.
On fera un préquel après le requel.
Très bien. Merci beaucoup Charline, à très bientôt.
Merci à vous, bonne fin de journée.
Ensemble sur Calade.
Allez, bon bah la musique elle est déjà partie juste avant, mais c'est pas grave, on recommence. Voici MPL avec ma bouche.
Tu voudrais bien ma bouche, tu m'as dit ça hier. Et je sais pas quoi faire, c'est plus cool que des fleurs. Ça ferait ton bonheur, une sorte de bijou, à la fois drôle et fou. Tu voudrais bien ma bouche, tu voudrais bien ma bouche, pendue comme une boucle, à ton oreille gauche, à ton oreille. Tu voudrais bien ma bouche, pendue comme une boucle, à ton oreille gauche, à ton oreille. Elle aurait toutes ses lèvres, elle aurait toutes ses dents. Elle sourirait aux gens, t'embrasserait la joue. Elle aurait même le goût des pains au chocolat que l'on dévore parfois dans le lit. Tu voudrais bien ma bouche, pendue comme une boucle, à ton oreille gauche, à ton oreille. Tu voudrais bien ma bouche, pendue comme une boucle, à ton oreille gauche, à ton oreille. Quand tu serais seul, elle te chuchoterait les mots qu'on dit jamais. Elle pourrait même te mordre tout doucement le lobe. Tu fermerais les yeux, nous on serait tous les deux même loin. Tu voudrais bien ma bouche pendue comme une boucle, à ton oreille gauche, à ton oreille. Tu voudrais bien ma bouche pendue comme une boucle, à ton oreille gauche, à ton oreille. À ton oreille. Tu voudrais bien ma bouche. Tu voudrais bien ma bouche. Tu voudrais bien ma bouche. Vendue comme une boucle. À ton oreille gauche. À ton oreille. Je vois que tu insistes pour accrocher à toi ce petit bout de moi. Mais comment je ferais si je peux plus parler?
Bouche, c'était le nom du morceau qu'on vient d'écouter.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Excessif.
Le prof Patrick.
Allez, il est avec nous en studio, le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans cette rubrique socio-économique ?
Petite accroche, Macron contre-attaque. Emmanuel Macron, le président, veut faire oublier le désastre de sa réforme des retraites, un désastre en termes de popularité, parce qu'elle est quand même passée. Donc il nous annonce que la réindustrialisation de la France est en marche.
Parlons d'autre chose.
Ah oui, à Dunkerque, non, on va parler de ça justement. Il a annoncé la construction d'une gigafactory, c'est-à-dire une très grande usine de batteries automobiles. Ça sera construit par un Taïwanais, Prologium, et ça devrait créer plusieurs milliers d'emplois. Donc ça, c'est le résultat d'un changement assez radical de politique économique au niveau français, mais aussi au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a sonné le tocsin, il faut réindustrialiser la France et l'Europe, il faut réduire nos dépendances, et en s'axant notamment sur les domaines stratégiques d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire transition écologique, voitures électriques, etc., etc. Donc on va parler de politique industrielle, Mathieu.
D'accord.
Ça fait 3 ans qu'on fait cette chronique, j'en ai jamais parlé. Donc il fallait bien qu'on s'y mette un jour.
Qu'est-ce que c'est la politique industrielle ?
T'as bien compris, hein, prof Patrick, qui va commencer par dire ce que c'est. Et, deuxième aspect du prof Patrick, je vais faire un petit rappel historique avant.
Okay.
Donc on fera ça en plusieurs fois, Mathieu.
Très bien, c'est une série.
Ouais, exactement.
J'adore.
Alors, définition de la politique industrielle, c'est quoi ? C'est très simple, hein, c'est les mesures que prennent les pouvoirs publics pour favoriser le développement de l'industrie dans un pays ou une zone géographique. Europe. Bon, ça part du principe que l'industrie est considérée comme un enjeu stratégique pour le pays en question, pour son développement, pour sa pérennité, sa survie, etc., etc. En France, ça date pas d'hier, cette histoire. Ça a commencé avec Colbert. D'accord. Tu te souviens de Colbert ?
Non.
Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis... Combien ?
14.
Oui, bravo.
Yes.
Louis XIV. 17e siècle. Il s'inspire des thèses mercantilistes, c'est-à-dire les ancêtres, entre guillemets, des libéraux qui vont arriver avec Adam Smith. Les mercantilistes, ils sont pour le développement du commerce, pour le développement de la compétitivité. Par contre, ils sont plutôt protectionnistes, les mercantilistes. Donc, il lance un programme, Colbert, de développement des manufactures royales, principalement le secteur du textile. Il va lancer un immense plan de construction de navires qui va amener la France à dépasser l'Angleterre, ce qui est quand même quelque chose à l'époque. Il va mettre en place, attention, des réglementations pour favoriser la concurrence et pour protéger les acteurs nationaux des concurrents étrangers. Voilà. Dans les autres pays, il faudra plutôt attendre un peu plus tard, c'est-à-dire le 19e siècle, pour voir apparaître une politique industrielle avec la révolution industrielle. C'est les plus gros pays d'abord, hein, France, Angleterre, Allemagne et pays voisins, qui sont les pays où commence la révolution industrielle. Et ça se met en place petit à petit à ce moment-là. Mais moi, je vais sauter à pieds joints jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. Et donc, je commence par la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, la politique industrielle en France va se faire de façon résolue. Vraiment, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement dedans. Et on commence par les infrastructures, les routes, l'électricité, tout ça. On crée un commissariat général au plan, qui va faire des plans de 5 ans hein, de développement industriel, donc la planification indicative, et qui va cibler des secteurs précis de l'économie à développer, et qui va les aider à se développer par des marchés publics, des projets, et en finançant la recherche. Voilà. Une petite information, le secteur de l'armement sera toujours le petit chéri hein, de la politique industrielle, il sera vraiment cajolé pendant des décennies, et ça continue encore aujourd'hui.
Ouais.
De Gaulle arrive, 58, la politique industrielle va répondre pour lui à un objectif d'indépendance de la France, de prestige de la France, de puissance de la France, donc on crée des champions nationaux, du moins l'État aide à la création de champions nationaux. Péchinet, Eugène Kuhlmann, Saint-Gobain, tout un tas de champions. Note bien, en 66, on lance le plan calcul. C'est quoi le plan calcul ? C'est un plan pour développer, monsieur, dame, l'informatique et la gestion de l'information. D'accord. C'est pas précurseur, ça ?
En 66, c'est la
classe. Ouais, c'est très fort, hein, sauf que c'est un fiasco. Ça marche pas. Sinon, on serait des champions dans l'informatique,
on en
hein, ça se saurait.
Parler, ouais.
Mais c'est dommage, c'était bien vu. Il y aura d'autres projets qui seront faits ensuite avec des pays européens, genre Airbus, Concorde, Ariane. Alors des réussites, des échecs aussi, ouais. Un peu de tout hein, là-dedans, il y a à boire et à manger. Si on sort de l'Europe, en Asie, on trouve un équivalent. Hein. Le Japon va se développer et ensuite les pays voisins, comme la Corée du Sud, en mettant en place des politiques industrielles très fortes. Au Japon, il y a un ministère qui est légendaire, c'est le MITI, ministère du Commerce Extérieur, surpuissant, qui va aider les groupes japonais à se développer, etc. etc. Alors, ils sont aussi un peu protectionnistes sur les bords. Hein. Ils laissent de côté le côté libre-échange que les Américains essaient de pousser. Ça donnera quand même des résultats spectaculaires en termes de développement de ces pays-là. Hein. Revenons au niveau européen, quand même. Parce qu'au niveau européen, c'est pas si simple que ça. En fait, dans les années 70, au début des années 70, les États membres ne vont pas réussir à se mettre d'accord pour mettre en place officiellement une politique industrielle européenne. Alors, cet échec dans cette tentative, elle dit des choses. Elle dit qu'en fait, derrière, il y a une divergence entre deux conceptions assez opposées des politiques économiques que doivent mener les pays de l'Union européenne. D'un côté, on a la conception française que je viens de présenter, hein, d'une politique industrielle menée par un État fort pour construire des champions nationaux. Et en face, on a la conception allemande de ce qu'on va appeler l'ordo-libéralisme. L'ordo-libéralisme, c'est le libéralisme à l'allemande, hein, c'est aussi simple que ça. Alors c'est un libéralisme dans lequel l'État a un rôle très important à jouer. Mais attention, avec une optique totalement différente de ce que je viens de décrire précédemment. C'est-à-dire que l'État va construire un cadre réglementaire pour assurer le libre fonctionnement des marchés, un peu comme Colbert l'a fait, hein, je l'avais dit. Il crée des lois, il surveille le comportement des entreprises, il interdit les comportements néfastes, etc., etc. Avec cette optique, en fait, de faire attention à ce que ce soit le consommateur qui gagne à tous ces progrès. Voilà. Mais il s'arrête là. L'État, selon l'ordo-libéralisme allemand, ne doit pas intervenir dans le fonctionnement des structures industrielles. Il ne doit pas aider un secteur, stimuler un secteur, stimuler une entreprise. Ça, c'est niet pour les Allemands ordo-libéraux. Mmh. Bon, attention, hein, côté allemand, ça a été efficace. Hein. Le développement industriel allemand entre la fin du 19e et le début du 20e a été absolument phénoménal. En quelques décennies, en 30 ans, ils ont rattrapé et dépassé, mais en mode fusée, le numéro 1 mondial qui était quand même l'Angleterre. Donc attention, c'est efficace en Allemagne. C'est basé beaucoup sur une alliance entre les entreprises et les banques régionales qui deviennent des actionnaires de ces entreprises. C'est vraiment une spécificité allemande. Si on revient à la politique industrielle plus à la française que j'ai décrite avec un État fort, elle est plutôt axée sur les entreprises et non pas sur l'intérêt des consommateurs. Il s'agit de renforcer les entreprises, d'encourager certains secteurs, certaines activités, certains types d'entreprises, dans une optique, et là c'est important de le comprendre, de lutte contre le grand concurrent économique de l'Europe, c'est les États-Unis.
Okay.
Il y a vraiment cette vision chez De Gaulle et chez les pays qui sont un peu du même type, l'Italie par exemple, etc.
Il faut battre les Américains.
Oui, il faut résister à la domination américaine de l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment ça, construire des champions pour résister. Donc derrière ça, on pourrait dire qu'on a deux visions de l'Europe. Une vision d'une Europe forte, indépendante, mais l'Europe des nations, pourrait-on dire, très gaullienne, d'accord, pourvue d'une identité propre forte, et une vision d'une Europe plus atlantiste, la vision allemande, avec l'ordolibéralisme, une logique fondée sur les respects des principes économiques de ce que j'appelle les néoclassiques, c'est-à-dire les libéraux. Bon, devine quoi, c'est la conception allemande qui va, à partir des années 80, prendre le dessus. D'accord ? Le passage à l'Union européenne, le marché unique, l'adoption de l'euro, tout ça, ça va se faire strictement selon la conception ordo-libérale allemande. Mais alors vraiment à 100%. La politique industrielle, telle que je l'ai décrite, à partir des années 80, passe aux oubliettes.
D'accord.
Voilà. Alors, il faut dire, pour expliquer un peu ça, que les années 70 sont passées par là, qu'elles ont montré les limites des interventions de l'État, d'accord, et que ces interventions de l'État sont jugées de plus en plus néfastes à l'activité économique. Les idées libérales économiques reviennent sur le devant de la scène, elles redeviennent dominantes, et elles se nourrissent des échecs et des impasses des politiques économiques des années 70, fondées sur des interventions de l'État fortes. Il faut dire aussi qu'à partir des années 80, on rentre dans la mondialisation avec la montée en puissance des marchés financiers, la montée en puissance des multinationales, l'arrivée proche des pays émergents, hein, dans ce petit jeu, et un contexte de transfert de plus en plus massif des industries traditionnelles, sidérurgie, textile et compagnie, de l'Europe vers l'Asie. Mmh. On est, en Europe, en train de parler de désindustrialisation.
Ouais.
Voilà le contexte de ces années 80. Je vais m'arrêter là pour cette première partie. Et la suite, au prochain numéro, semaine prochaine.
Les années 80 à nos jours.
Voilà, ce sera la deuxième partie.
Parfait. Merci beaucoup, prof Patrick.
Merci, au revoir.
À très bientôt.
Ensemble sur Calade.
100.9 Calade.
Allez, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin de journée, de vous donner rendez-vous non pas demain, mais lundi à 12h12, puisque la radio s'offre un beau week-end prolongé à Eiffel Le Pont. Cette émission sera retrouvée sur notre site internet radio-calade.fr et en rediffusion le matin à 10h. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous lundi, 12h12, pour un nouveau numéro. Tout de suite, vous écoutez M sur Calade, Machistador. À tout bientôt, ciao ciao.